Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. J'avoue que je cherchais des sujets pour cet épisode et en fait j'ai trié par qu'est-ce que j'avais envie de dire et il m'est venu en tête quelque chose qui est très important et surtout très actuel. Je ne sais pas pourquoi je ne vous en ai pas parlé. Il y a des fois des sujets où je me dis que c'est plus pour un post LinkedIn, mais en fait c'est parfois limite mieux pour un podcast. Ce sujet, c'est celui de la conjecture, en tout cas faire en sorte dans son business de agir et réagir en fonction de la conjecture et notamment politique. Alors, j'ai dit plusieurs fois que je ne ferai pas de politique, c'est-à-dire que le podcast ne porte pas sur mes opinions politiques. En revanche, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est intéressant à porter, qui est celui de vous faire part du monde de la recherche en santé et du monde de la formation en santé aujourd'hui et dans quel... circonstances administratives et politiques s'est baigné. C'est quelque chose qui est très actuel en plus, donc qui va me permettre de pouvoir vraiment échanger quelque chose que je vis, qui est certes très proche de mon milieu à moi, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça, je croyais que c'était connu, mais en fait j'ai vu autour de moi que c'était pas quelque chose de forcément très connu. Et donc, je vais essayer de vous faire part un petit peu de ce qui se passe politiquement pour moi, pour mes activités. Voilà, en commençant par vous expliquer un petit peu dans quoi je me suis souscrit, dans quel dispositif je me suis mis pour commencer à développer mon activité. Alors, j'ai commencé à me dire que j'allais former dans le champ de la santé et donc faire de la psychologie sociale dans la santé. Je me refuse à dire psychologie de la santé parce que je trouve que ça manque de sens de vouloir toujours préciser qu'on fait un certain type de psychologie, sachant que la psychologie de la santé, c'est globalement de la psychologie sociale appliquée à la santé, avec certes des modèles et des théories qui sont un peu plus présentes dans le champ de la santé. Par exemple, l'observance thérapeutique, c'est une thématique qui est fortement associée à la santé. Mais je trouve dommage de sectoriser les disciplines de la santé parce que c'est comme ça qu'on fait des redites théoriques. Et c'est comme ça que moi, quand je vais voir, par exemple, de la psychologie de la santé, je me dis, oui, OK, ils ont fait un modèle d'observance thérapeutique, c'est-à-dire est-ce que les personnes font ce qu'on leur recommande de faire, mais est-ce que si on ne fondamentalise pas la chose, l'observance thérapeutique ne serait pas appliquer des recommandations, appliquer un conseil, et dans ce cas, ça pourrait être dans beaucoup d'autres sous-types de psychologie. Donc voilà, je trouve que la recherche offre déjà un terrain assez ouvert à être très précis conceptuellement, que je trouve ça dommage de sectoriser. Je trouve que ça apporte pas grand-chose, à part que c'est après des stratégies de gestion de carrière de dire « je suis expert en psychologie de la santé ». Je trouve que c'est plus un axe marketing que quelque chose qui a du sens dans le fonctionnement de la recherche. Mais je suis prêt à ce qu'on... me contredit sur ce sujet. En tout cas, voilà, c'est ce que je vois. Du coup, moi, j'aime pas dire que je fais de la psychologie de la santé. Je fais de la psychologie sociale. C'est déjà une sectorisation de la discipline qui est assez intéressante et pertinente. Et je pense pas qu'on ait besoin d'aller au-delà. Sinon, on va vraiment commencer à répéter la science et à réécrire la science. Et c'est quelque chose qui m'embête, moi, parce que je suis assez orienté vers l'efficacité de ce système de recherche. Et je trouve qu'on s'en éloigne quand on fait des petites guéguerres en disant « moi, je suis psychologue de la santé, moi, je suis psychologue de l'environnement ». Voilà, c'est mon point de vue. Mais donc, moi, je dis que je fais de la psychologie sociale dans la santé, c'est-à-dire que je suis dans la santé, mais que j'utilise des outils de psychologie sociale. Et globalement, j'essaye de comprendre les comportements, de les prédire et de les mesurer. Globalement, c'est une question assez fondamentale qu'on se pose tous. Donc, si le comportement, c'est trier ses déchets, on fait de la psychologie de l'environnement. Et si le comportement, c'est se vacciner, on fait de la psychologie de la santé. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin et de fermer les portes. D'autant plus que le souci dans les études sur la confiance, c'est que On est déjà sectorisé par grandes disciplines, c'est-à-dire marketing, psychologie et médecine. Tout le monde essaie de mettre son grain de sel sur la confiance, alors que fondamentalement, c'est un concept humain, relationnel, social. Donc, je pense que c'est un peu plus le rôle de la psychologie sociale de s'intéresser à ce qu'est la confiance entre les humains, en tout cas. Le marketing le fait, la confiance envers une marque, envers un produit. Donc, c'est quelque chose qui peut un peu plus s'entendre. Mais donc aller resectoriser et moi dire que voilà, je suis expert de la confiance en psychologie de la santé, je trouve ça réducteur pour rien et je trouve qu'on perd en efficacité et en clarté du système de santé, d'autant plus que la psychologie et les sous-rubriques de la psychologie sont déjà peu connues du grand public. Donc déjà de dire je suis psychologue social, on comprend pas. Bon, moi, je commence à être un peu dans un réseau où tout le monde sait ce que c'est, mais je suis assez conscient du fait que déjà dire psychologie sociale, psychologie clinique, psychologie cognitive, psychologie du développement, ça peut perdre beaucoup de gens. Et si en plus on doit rajouter la thématique dans laquelle on applique ce qu'on fait, eh bien, je trouve qu'on perd, on perd beaucoup d'informations. Et on sectorise là où c'est pas nécessaire et là où je trouve qu'il y a déjà un tri qui est fait. Bref, c'est mon point de vue un petit peu, on va dire, conservateur sur l'évolution de la science et l'évolution de la psychologie. Je me suis perdu du coup dans ce sujet. Oui, donc, tout ça pour dire que je voulais vous parler de la psychologie dans la santé et donc j'ai souhaité faire de la formation et de la recherche dans le champ de la santé, mais en faisant de la psychologie sociale comme d'autres psychologues sociaux auraient pu faire à ma place. J'ai commencé en me disant, je vais regarder un peu c'est quoi la formation en santé, à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne et quel modèle économique je vais pouvoir viser. Dans mes premières recherches, en fait, mes recherches ont abouti à me rendre compte qu'il y avait des formations qui étaient rendues obligatoires pour les professionnels de santé. Donc, les professionnels de santé doivent se former à un certain rythme dans l'année, un certain nombre d'heures de formation dans l'année, et ils sont remboursés de ces formations. Donc, en fait, il y a un système dans lequel il y a des organismes de formation qui proposent des sujets de formation et l'État, enfin, pardon, ces organismes de formation le proposent à des professionnels de santé qui disent « Ok, je veux bien être formé sur tel sujet ». Le professionnel de santé donne de l'argent en échange d'une formation à l'organisme de formation, et ensuite il réclame à l'État d'être remboursé du prix de la formation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, en fait, il y a des gens en France, des professionnels de santé, des médecins, infirmières, etc., qui sont amenés à être obligés d'être formés et qui en plus sont remboursés. Ça veut dire qu'elles ont une pression, enfin ces personnes ont une pression institutionnel à se faire former et en plus ça peut leur revenir gratuitement. Donc je me suis dit logiquement, bah c'est un bon moyen pour moi de former et de me placer dans un cadre économique assez facile parce que les clients se font former gratuitement si on fait le tour de la boucle. Donc je me suis rapproché d'organismes de formation spécialisés dans ces systèmes-là. Donc il y a un système ANDPC, donc un système DPC, développement professionnel continu, il me semble. Malheureusement, j'ai arrêté de préparer mes podcasts parce que c'est comme ça que j'aime les enregistrer. Donc je gagne un petit peu en imprécision, mes excuses. Mais donc il y a une agence, l'Agence nationale du développement professionnel continu, ANDPC. Je suis pas sûr du D, mais globalement, c'est une agence qui référencie, analyse et surtout valide les sujets de formation qui peuvent être remboursables à destination des professionnels de santé. Et donc, c'est l'institution qui, l'instance, la structure qui règle contrôle ces formations qui sont remboursables. Donc, je me suis intéressé à ce dispositif, je me suis intéressé aux organismes de formation qui sont associés à ce dispositif en disant, bah, si moi, j'ai un sujet de formation qui est remboursable du point de vue de l'institution et que j'arrive à le vendre à des organismes de formation, et bah, ensuite, je suis quand même dans un système où l'organisme de formation a juste à dire, bah, cliquez ici, vous allez être formé, vous serez remboursé. Donc, c'est un placement stratégique que j'ai trouvé pertinent. Et qui, en effet, m'a permis d'avoir des contrats et de m'inscrire en collaboration avec des organismes de formation qui sont spécifiques à NDPC ou qui font des formations, on dit qui font des formations DPC. Pour ceux du domaine, comme d'habitude, mes excuses, j'essaye de vulgariser et puis de le faire de mon point de vue, c'est-à-dire que moi je suis formateur, donc il faut que j'ai un point de vue global de à quoi ça ressemble et je ne suis pas un expert DPC. Je suis justement accompagné d'organismes de formation qui s'y connaissent mieux que moi pour déposer et faire valider mes sujets de formation. Donc la NDPC, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le FIFPL, il y a un autre FIF, je sais pas quoi. Je crois qu'il y en a deux ou trois, mais la NDPC, c'est quand même quelque chose de connu et de conséquent dans le champ de la santé. Et donc, aujourd'hui, il y a un rapport qui a été sorti de l'IGAS, ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais d'une autre institution qui explique à quel point les formations obligatoires et notamment le système de la NDPC est limité, est critiquable, et en effet il l'est. La conclusion de ce rapport, c'est de suggérer qu'il faille fermer tout simplement le dispositif du DPC pour les professions à ordre à partir du 31 décembre 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de professions de santé qui ont un ordre étaient obligées de se former, pouvaient se faire rembourser, et du jour au lendemain, il y a un rapport qui dit bah on devrait l'enlever, et donc il y a des propositions qui ont été faites pour appliquer cette suppression à partir du 31 décembre. Mais ça a une conséquence de fermer tout un dispositif, de fermer le modèle économique de organismes de formation qui ont tout basé sur ce dispositif, et potentiellement de formateurs comme moi qui se disent bah moi je fais aussi de la NDPC parce que voilà je m'inscris dans le truc où les médecins se font former gratuitement, je sais que c'est quelque chose qui donnera envie de se faire former, donc c'est quelque chose de positif. Je vous dis ça, c'est pas une plainte, c'est pas un coup de gueule, et c'est même pas le fait de vous dire que mon activité va s'arrêter, etc. Parce que je ne fais pas que ça, et même j'ai plutôt un virage dans mes prestations, donc c'est pas ce qui me fait vivre. Donc moi, c'est juste un moment où je me rends compte que la conjecture a un impact sur le business, et que je pense que c'est là où il faut apprendre l'agilité, et je trouve que c'est un moment important. À vous partager, de savoir que parfois on a des vents de face, des vents dans le dos administratifs et politiques, et vous expliquer un peu contextuellement à quoi ça ressemble. Donc, il y a une de ces instances qui devrait être supprimée, sauf qu'on est face au flou, il pourrait y avoir un système qui pourrait compenser ce dispositif pour que les professionnels de santé continuent à se faire former gratuitement dans une pratique de développement professionnel continu. Et c'est celui de la certification périodique. Donc on va dire que c'est une autre manière de organiser et décider quels sujets vont être remboursés. Et en fait, il y a un gros flou sur, OK, si on supprime l'ancien fonctionnement, qu'est-ce qu'on va faire pour le nouveau? Quels vont être les sujets remboursables? Qui va décider? Et du coup, je suis face à, et surtout les organismes de formation, hein, c'est surtout à eux que je pense, j'avoue, parce que moi, je peux faire plein de choses différentes, mais quand il y en a qui ont des employés et qui sont inscrits dans un dispositif qui change à quasiment 6 mois, c'est assez compliqué. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand flou sur ce qui va se passer dans les prochains mois pour former les professionnels de santé. Et donc, évidemment, moi, c'est une retombée sur moi, sur les organismes de formation avec lesquels je travaille, parce que ils ne voient pas un avenir certain. Et donc, c'est difficile pour moi de négocier des formations, et puis de dire, voilà, je rentre dans votre organisme, on développe une formation, vous allez la vendre pendant des années. En fait, c'est plus le cas. Donc, je suis face à la conjecture, tout simplement, qui veut que on est face à une année un petit peu morte et molle dans le champ, je pense partout, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'allées, enfin de, comment dire, il y a eu beaucoup d'événements récents en politique, tout simplement, et ça a eu un impact sur une décision du budget tardive, sur des conséquences en escalade qui font qu'il y a un retard accumulé. et qui fait que dans le champ, en tout cas moi je le vois dans le champ de la santé et de la formation, il y a du retard. Quasiment tous mes clients me disent que bah, y a des difficultés, soit pour des subventions, soit tout simplement pour connaître les lignes budgétaires, soit en termes de demande de formation. Et donc il faut que moi je sache faire bah, avec cette news, en sachant différencier à quel point les choses sont de ma faute, à quel point elles sont de l'ordre de la conjoncture, et peut-être réfléchir à être flexible, à être adaptatif, parce que c'est quelque chose que j'entends depuis que je suis petit. Une bonne entreprise, c'est une entreprise qui sait rebondir sur les événements. Donc c'est pour ça que je suis absolument pas défaitiste et que je vous partage ça de manière neutre. Et justement, c'est l'opportunité pour moi de, bah, de faire face à des circonstances. Et je pense que je suis loin d'avoir d'être face à un événement qui est hors de ma portée, qui peut nuire potentiellement à ce que je fais, et que c'est le moment de savoir être agile. Donc, pour revenir un petit peu, désolé, c'est un petit peu fouillis aujourd'hui, mais pour revenir un petit peu aux critiques qui peuvent être adossées à la NDPC, c'est que bah, déjà, il y a peu de professionnels de santé qui vont au bout de leurs obligations. Il y a un gros contrôle, peut-être trop gros contrôle de la NDPC sur les sujets qui sont remboursables, sur comment ça se passe. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Ils demandent les temps de connexion pour savoir si exactement les gens ont passé 7 heures de formation, alors que une mesure quantitative, c'est pas forcément le mieux pour une formation. Surtout que parfois, bah, si on finit plus tôt une journée de formation, bah, c'est aussi parce que ça s'est bien passé. C'est très restrictif et c'est assez fermé comme sujet. Donc l'idée était de renvoyer à la Haute Autorité de Santé la décision des sujets qui pourraient être intéressants pour former et rembourser la formation des professionnels de santé, avec des axes qui ont été déterminés, en sachant que il y a un de ces quatre axes qui me concerne, qui concerne le relationnel, la communication entre les patients et les soignants. Donc je me dis que à court terme, je risque d'avoir des difficultés dans le champ de la formation en santé. Par contre, à moyen terme, je devrais avoir des portes qui devraient s'ouvrir, parce qu'il y a quand même il y a quand même un sujet qui est grandissant sur la relation, la communication et la santé mentale, enfin la relation, la communication entre les professionnels de santé et les patients, mais aussi la santé mentale des professionnels de santé, leur santé psychosociale et leur santé de travailleur, parce que je suis psychologue du travail. Et c'est là où moi j'ai un champ dans lequel je peux être pertinent et j'ai des choses à dire et à faire. C'est pour ça que je sais que je vais avoir du travail. Par contre, bah, je trouve ça très intéressant, et là je le vis heureusement très froidement. Bah, en fait, de savoir dans quel contexte on évolue, d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que la politique nous mène, tout simplement, et essayer de naviguer un peu sur les vagues des décisions politiques sur lesquelles parfois on n'a pas de contrôle. Et donc, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Moi, je me projette du coup en me disant: il y a une perspective où je sais que mes thématiques vont être de plus en plus pertinentes. Je vois des messages institutionnels, je vois des lois qui passent, je vois des prises de position de la Haute Autorité de Santé qui vont dans le sens de thématiques relationnelles, communicationnelles, et donc où je sais que j'aurai une pertinence dans les sujets de formation et de fine. Par contre, ben voilà, il y a un petit tremblement de terre à passer sur ce sujet, et je trouve que c'est important pour moi aujourd'hui. Déjà de potentiellement de redoubler d'efforts, potentiellement de réfléchir à comment je peux former autrement, d'autres manières, avec d'autres dispositifs, parce qu'il faut savoir faire face à plusieurs éventualités et pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc finalement, c'est ce que j'ai fait, étant donné que c'est pas mon seul type de prestation. Le fait que ce système ne fonctionne plus, ça nuit pas totalement à mon business, si je puis dire. Et donc, voilà, c'est une leçon finalement d'entrepreneuriat, en vous disant, bah, pour une fois, pas un échec, mais plutôt une réussite, quelque chose que j'ai bien fait, c'est-à-dire ne pas foncer à fond dans un dispositif et déjà essayer de varier ses prestations. Moi, je l'ai fait un peu naturellement, tout simplement parce que j'ai fait énormément de demandes, j'ai cherché énormément de clients, et finalement, j'ai des prestations qui sont diverses. Par contre, je sens qu'il y a un coup de mou, et les gens me le disent, hein, les gens du domaine qui s'y connaissent plus, que c'est pas la meilleure année pour la formation en santé. Donc ça, c'était pour le champ formation. Il y a un autre sujet qui est le champ recherche et innovation, parce que bah, vous le savez, en fait, je souhaite tout autant faire de la formation que de la recherche, voire même plus de la recherche que de la formation. Et donc, j'aimerais faire de la recherche en privé avec potentiellement des associations, des hôpitaux. Et là, il y a un élan quand même assez favorable à la recherche, à l'innovation en santé, bien que il y a plutôt un intérêt sur la tech, la deep tech, les IA, même en santé. Donc ça, c'est évidemment une voie royale pour toutes celles et ceux qui n'ont pas fini leurs études. On vous l'a dit et moi, je le vis encore. Si on sait coder, si on est dev, si on est un expert en IA, et bah, on peut être pris partout. Ce sont les sujets sur lesquels il y a de l'argent et sur lesquels il y a de l'investissement institutionnel. En revanche, il y a quand même aussi toujours... à la fois une volonté d'innovation en santé, en plus associée à de récentes prises de position politiques sur la volonté que la France soit une terre où il fasse bon vivre pour être scientifique, et on invite les chercheurs extérieurs à venir en France. Mais aussi parce que je vois des communiqués de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence de l'innovation de la santé, qui soulèvent des thématiques relationnelles, communicationnelles et de bien-être au travail des professionnels de santé. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai un point de vue neutre. C'est parce que le tableau n'est pas totalement noir. Il est voilà, le fonctionnement de ce que je vais faire et du système de formation et de la santé en ce moment est en ébullition, mais je pense qu'il va aboutir sur des thématiques et un fonctionnement va être positif pour moi et intéressant. Quand je dis positif, c'est pas purement financier et vénal, c'est que ce sont les thématiques qui m'intéressent, c'est les thématiques pour lesquelles j'ai envie de travailler et de gagner ma vie, et ça a l'air d'aller dans le bon sens. Donc, si je peux transmettre quelque chose en conclusion, c'est de vous dire que je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir un œil sur l'actualité politique dans notre domaine, mais aussi sur les communications des institutions, sur en fait de la culture générale de comment ça se passe. En tout cas, en France, connaissant les strates institutionnelles, administratives et la complexité, il se passe beaucoup de choses et du coup, je trouve que c'est important et intéressant à la fois pour tracer son cap, mais aussi pour faire des virages sur le trajet pour atteindre le cap. C'est important de garder un œil sur tout ça, sachant qu'il faut savoir que je suis loin d'être le plus renseigné, mais que voilà, j'ai un œil attentif sur ce qui se passe dans mon domaine. Donc, si vous faites de la formation, je ne sais pas si vous êtes ingénieur pédagogique, bah, il y a peut-être un ministère à aller regarder. Si vous êtes dans le sport, il faut suivre quand même ce qui se passe dans le ministère des sports. Moi, tout simplement, et c'est assez simple, LinkedIn, je sais que c'est un réseau qui fait grincer des dents beaucoup de gens, mais LinkedIn m'apporte beaucoup sur ce sujet-là, en suivant la Haute Autorité de Santé, en suivant des personnes politiques qui sont dans mon champ de travail. Et bah, c'est là où j'ai des infos. Je suis aussi les actualités globalement sur Google Actualité, même si je trouve que l'algorithme n'est pas top et on n'a pas forcément des trucs super. Mais voilà, je trouve que essayer de s'en rendre compte de la conjecture actuelle de notre métier, c'est une manière simple d'avoir un cap clair, de se rassurer sur nos objectifs, sur comment ça va se passer dans les prochaines années, et de pouvoir être réactif et mieux comprendre le fonctionnement de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, moi, de manière opérationnelle, je me dis, OK, c'est peut-être pas une année où la formation en santé, il va se passer grand-chose. Soit je redouble d'efforts et je sais pourquoi je le fais, soit bah, c'est le moment d'essayer de développer autre chose, ou c'est le moment d'arrêter de communiquer avec des organismes de formation qui sont spécialisés DPC et peut-être d'autres types d'organismes de formation. Voilà. En tout cas, ça me permet d'adopter un choix stratégique sur le développement de mon activité. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Je ne me suis pas senti très organisé, mais j'espère que ça a été clair quand même. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.